down.
The 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Et comme chaque lundi, notre feuilleton américain Trump à la Maison-Blanche. Bonsoir Frédéric Carbone en direct de Washington.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Alors un événement continue hein, bien sûr de dominer l'actualité américaine, Frédéric. C'est la gifle de l'Obamacare, première véritable claque pour Donald Trump.
Oui, et elle est d'autant plus retentissante, cette claque, qu'elle intervient sur un sujet sur lequel tous les républicains étaient censés être d'accord et qu'elle met à mal cette image du Donald Trump, grand négociateur, et qui a promis à ses électeurs de gagner tout le temps. Donc le président américain digère cet échec. Il a d'ailleurs eu une inhabituelle retenue dans la tempête, juste un ou deux tweets pendant le week-end. Et sur le leçon qu'il en tire, on en reste à sa déclaration de vendredi dernier dans le bureau ovale.
Ça a été une période intéressante et nous avons appris beaucoup. Nous avons appris des choses sur la loyauté, sur le processus au Congrès et sur les règles archaïques de fonctionnement du Sénat et de la Chambre. Donc, pour moi, ça a été une expérience très intéressante.
Bon, vous l'entendez, il y a un petit côté le parrain qui a les noms de ceux qui lui ont manqué et qui n'oubliera pas cet épisode. Clairement, en tout cas, Donald Trump a constaté que les méthodes du business ne fonctionnent pas dans la politique. Et c'est d'ailleurs le message que lui font passer des élus républicains qui n'étaient pas prêts à voter cette réforme de la santé. Message donc, il ne suffit pas de taper du poing sur la table, il faut savoir de quoi on parle. Voici Charles Dent, représentant de l'État de Pennsylvanie.
Cette discussion a trop tourné autour d'un calendrier artificiel et d'ultimatum arbitraire. On devrait se concentrer plus sur les gens qui vont être affectés par les décisions sur leur couverture médicale. On n'a pas eu assez de discussions sur le fond.
Le voilà l'avertissement pour l'avenir, pour les autres chantiers législatifs, le souhait d'une Maison-Blanche plus politique, moins amateur dans son fonctionnement et pas obsédé par le seul souci de gagner à tout prix. La réforme de la santé enterrée au Congrès, Mickaël, après le décret migratoire bloqué par les tribunaux, ça commence à faire beaucoup.
Bon, et on imagine justement que l'administration Trump va en tirer les leçons et passer à autre chose, non ?
C'est en tout cas le souhait, et c'est pour cela que Donald Trump a arrêté net ce dossier de la réforme de la santé, ne pas traîner le boulet encore plus longtemps, méthode d'une certaine manière de patron. Mais avant de passer à autre chose, il faudra peut-être solder les comptes de l'échec, à qui la faute. Et la cible s'appelle Paul Ryan, le patron des Républicains à la Chambre des représentants, l'homme qui n'a pas su trouver de majorité, accessoirement la figure de l'establishment rejetée par de nombreux proches de Donald Trump depuis des mois. Écoutez ainsi Janine Pirro, une commentatrice de la chaîne Fox News hier.
Paul Ryan doit démissionner de son poste de président de la Chambre des représentants. Ce n'est pas la faute du président Trump. Personne n'imagine qu'un homme d'affaires puisse comprendre tout de suite toutes les nuances et les complexités de Washington et du processus législatif.
Alors officiellement, Donald Trump fait savoir que lui ne reproche rien à Paul Ryan, mais ça va tanguer dans les jours à venir. Et tout ce qui se passe rend également périlleux la prochaine grande réforme annoncée, celle des impôts. Sinon, Donald Trump peut toujours compter sur des dossiers qui ne nécessitent pas de vote au Congrès et qui font l'unanimité chez les Républicains. Il va ainsi demain abroger par décret une série de contraintes environnementales imposées par l'administration Obama, les lois vertes, ennemies des cols bleus, explique Scott Pruitt, qui est le nouveau patron de l'Agence de l'environnement.
Dans ce pays, nous avons fait du bon travail pour avoir un équilibre entre la défense des emplois et l'environnement. Mais la précédente administration a pris des mesures anti-emploi, anti-croissance, et les accords de Paris en sont une illustration. Ce qui ne va pas dans cet accord, c'est que la Chine et l'Inde, les plus gros pollueurs en CO2, n'ont rien à faire avant 2030. Donc cela nous pénalise en termes d'emploi, et eux n'ont aucune contrainte internationale. C'est juste un mauvais accord.
Et autre sparadrap pour la Maison-Blanche, Frédéric, c'est évidemment la Russie et de nouvelles auditions en vue.
C'est vrai, le nuage continue de s'épaissir, le nuage russe, avec cette confirmation par le FBI d'une enquête sur une éventuelle collusion entre des proches de Donald Trump et la Russie au moment du piratage de la campagne Clinton. Quatre hommes sont concernés, peuvent être concernés directement. Paul Manafort, directeur de campagne à l'époque du candidat Trump, qui a eu de nombreux contrats juteux avant avec l'entourage de Vladimir Poutine. Carter Page, moins impliqué dans la campagne, qui a lui rencontré des Russes au moment de la convention républicaine. Le général Flynn, obligé de démissionner, on l'a vu, de son poste de conseiller à la sécurité nationale pour cause d'échanges téléphoniques avec l'ambassadeur russe à Washington, et Roger Stone, qui avait l'air d'être très au courant l'été dernier du piratage en cours. Lui, c'est un proche depuis longtemps de Donald Trump, et comme d'autres, il a devancé l'appel d'une certaine manière en réclamant d'être entendu par la commission parlementaire. On l'écoute.
En Amérique, nous sommes censés avoir accès aux éléments à charge et faire face à ceux qui nous accusent. Moi, en tout cas, j'ai hâte. Et si M. Page et M. Manafort font la même chose, franchement, je pense que tout ce dossier russe finira au placard. Il n'y a eu aucune collusion dont je sois au courant pendant la campagne de Donald Trump.
Voilà, démenti à tous les étages. Il y a un nom qui est quand même pas cité, là, c'est celui de Jared Kushner, le gendre et très proche conseiller de Donald Trump. On savait qu'il avait rencontré l'ambassadeur russe à la Trump Tower de New York avant l'investiture, et on apprend aujourd'hui qu'une commission du Sénat souhaite l'entendre à propos de ses réunions et de ses liens d'affaires avec un banquier russe qui figurait sur la liste des établissements sanctionnés par les États-Unis d'Obama.
Bon, et rapidement, Frédéric, une conséquence inattendue de tout cela, c'est ce réseau social spécialement conçu pour les déçu de Trump.
Absolument, un compte Twitter, Trump Regrets, qui recense tous ceux qui disent regretter avoir voté pour Donald Trump. Je vous en cite un par exemple, j'ai voté pour vous en pensant que vous alliez supprimer l'Obamacare, je suis très déçu, je n'oublierai pas, impossible de vérifier la sincérité de tous ceux qui se présentent ainsi, mais voilà un petit baromètre de l'état de l'opinion. La bataille est donc engagée sur Twitter, au nombre d'abonnés, ce compte année à un peu plus de 200 000. 100 fois moins que Donald Trump.
Ouais, mais ça peut devenir un bon baromètre. Frédéric Carbone en direct de Washington. Merci.